La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Bolivie, c'est Rosa Moussaoui. Bonjour Rosa Moussaoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter pour l'Humanité. Vous rentrez tout juste de Bolivie, vous avez passé une quinzaine de jours. Alors je vais rappeler pour les auditeurs, dimanche dernier, les Boliviens ont été appelés aux urnes pour des élections générales, près d'un an après... Quasiment jour pour jour d'ailleurs. Le putsch qui avait écarté du pouvoir l'ancien président Evo Morales qui revendiquait sa victoire suite à un scrutin qui a été contesté. La vice-présidente de la Chambre des sénateurs, Jeanine Agnès, conservatrice, avait pris la suite. Mais donc finalement, force est de constater que sa politique n'a pas convaincu. Et c'est donc Luis Arce du MAS, donc du mouvement vers le socialisme, qui remporte le scrutin avec plus de 50% des voix. Alors on va essayer de comprendre ce résultat et de voir à quoi il faut s'attendre maintenant pour le pays. L'année dernière, je le disais, la victoire d'Evo Morales, qui est resté 30 ans au pouvoir, avait été contestée. Cette fois-ci, Luis Arce recueille 55% des suffrages exprimés, contre 28% pour son adversaire de droite, Carlos Mesa, et 14% pour le candidat d'extrême droite, Luis Fernando Camacho. C'est une victoire, cette fois, incontestable et incontestée.
Je crois que elle l'est, puisque les autorités du gouvernement de facto ont immédiatement reconnu cette victoire avec 55%. En fait, dès le premier soir, Jeanine Agnès a reconnu, sur la base des sondages sortis des urnes, cette victoire très très large du MAS. Une simple précision, Evo Morales n'est pas resté 30 ans au pouvoir.
Il dit 13 ans.
À 13 ans,
c'est le masque.
J'avais compris.
C'est le masque, je pense.
Et effectivement, en fait, Evo Morales a gagné sur le fil la dernière fois avec cette règle qui permet d'élire un président de la République avec plus de 40% des voix s'il arrive 10 points devant son adversaire arrivé second. Et ces résultats-là avaient été contestés à la fois dans la rue avec une opposition de droite extrêmement mobilisée, tout ce mouvement des pititas qui mobilisait les classes moyennes, avec des mutineries du côté de la police, avec une armée qui avait appelé en fait Evo Morales à partir, à quitter le pouvoir. Et disons qu'il y a quand même un élément qui avait ouvert la voie à cette prise du pouvoir par un gouvernement de facto, c'est le rapport préliminaire qu'avait remis l'Organisation des États américains faisant état de fraude. Et depuis, des études indépendantes ont établi que ce rapport préliminaire se basait sur des données manipulées. Et même le New York Times, qui a publié une partie de cette étude, a fait son mea culpa sur les accusations de fraude dont a été la cible de Morales.
On a craint aussi des manipulations. Il y a un moment où on a suspendu le système de compilation des résultats, on a suspendu aussi les sondages sortis des urnes qui étaient favorables effectivement aux socialistes. On a eu un moment, une peur justement, qu'à nouveau on manipule les résultats.
Alors, il y a eu une situation, un climat d'extrême tension, un climat de violence aussi pendant cette campagne électorale. Il faut savoir que tout a été mis en œuvre dès son retour en Bolivie pour tenter d'entraver d'abord la candidature de Luis Arce. Cette candidature a fini par s'imposer et jusque dans les derniers jours avant le scrutin, des démarches avaient été entreprises pour ôter au mouvement vers le socialisme sa personnalité juridique. Donc, requête rejetée par la justice bolivienne. Mais il y a eu ce climat de violence entretenu par des milices d'extrême droite, avec des candidats du MAS, des candidats aux législatives, aux sénatoriales, qui étaient pris pour cible, qui étaient attaqués extrêmement violemment. Et Luis Arce lui-même qui a été molesté, par exemple, par des policiers en civil lors de ses déplacements. Enfin, et tout ça encouragé par les autorités de facto, notamment par le ministre de l'Intérieur, Arturo Murillo, qui s'en est pris aussi, par exemple, aux observateurs venus regarder les conditions dans lesquelles se déroulait ce scrutin.
Pour qu'on ait un peu une idée, justement, de ce climat de violence que vous évoquez, il faut introduire donc ces miliciens d'extrême droite qui s'appellent les Nervis, qui ont effectivement tabassé, insulté à l'envi. Il y a notamment, vous avez fait un portrait pour l'Humanité, d'une femme qui est maintenant sénatrice, qui a été élue, qui s'appelle Maria Patricia Arce Guzman, et son histoire a provoqué vraiment l'émoi et beaucoup de discussions en Bolivie. Vous nous racontez ce qui lui est arrivé à cette femme?
Alors Patricia Arce, elle est maire d'une localité près de Cochabamba qui s'appelle Vinto, et au moment du coup d'État, là il y a un déferlement de violence, les locaux du MAS sont incendiés, mis à sac, les domiciles aussi de certains dirigeants, dont la maison de Evo Morales, d'ailleurs à Cochabamba. Les représentants, les militants, les sympathisants du MAS sont pris pour cible. Et elle a été séquestrée, frappée, battue, couverte de peinture rouge, traînée dans la boue. Et cette image-là avait énormément choqué. Et elle a été élue triomphalement sénatrice à l'issue de ces élections générales. Mais elle est devenue un peu le symbole de la violence qui s'est déchaînée contre des représentants du MAS. Et une violence qui avait aussi une dimension, il faut le dire, raciste, quoi. Et il y a, je crois, dans le déchaînement de cette extrême droite, il y a eu une volonté de prendre la revanche sur ces descendants en fait des peuples originaires qui se sont imposés au pouvoir au travers d'une dynamique d'émancipation politique, de participation politique. Ça, c'est quelque chose qu'une certaine élite économique héritière en fait aussi des colons espagnols n'a jamais accepté. Il y a eu une espèce de libération de la parole raciste pendant cette année qui a énormément choqué les Boliviens et qui, je crois, a contribué à la dynamique très forte qui s'est construite autour du MAS à l'occasion de ce scrutin.
Et alors comment on va justement gérer cette séquence-là avec cette immense violence qui a eu lieu, l'Enervis, ces ministres d'extrême droite, le gouvernement de transition, on parlait de Jeanine Agnès, vous parliez de Murillo, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ces gens-là vont être poursuivis? Est-ce qu'on va jouer la carte de l'unité nationale et donc passer à autre chose?
Alors, des voix s'élèvent déjà pour demander que soient désarmés ces groupes violents qui agissent à Cochabamba, à Santa Cruz et puis ailleurs dans le pays, qu'ils puissent être aussi jugés pour leurs exactions. Et en effet, des voix s'élèvent pour demander que ne s'installe pas une forme d'impunité, mais que le gouvernement de facto, et donc Jeanine Agnès en tête, puisse rendre compte d'un certain nombre de violations graves des droits humains qui ont eu lieu pendant le coup d'État électoral de l'année dernière et puis ensuite, tout au long de cette année. Je pense en particulier aux massacres qui sont produits les 15 et 19 novembre à Sacaba, donc dans le tropico de Cochabamba, et à Sancata, là, plutôt du côté d'El Alto, du côté de La Paz.
Et Arce, le nouveau président est disposé justement à faire ce travail?
Alors, il est dans une position compliquée parce qu'il hérite aussi d'une situation d'extrême polarisation. Donc, il tient un discours de réconciliation nationale et en même temps, il est aussi sous la pression de ses appels à ce que justice soit faite pour pouvoir retrouver le chemin de la paix, de la stabilité. Mais en tout cas, je crois que cette aspiration à revenir à une forme de paix civile et de stabilité, là aussi, elle a joué dans cette dynamique en faveur du MAS, parce que moi, j'ai rencontré même des électeurs de Carlos Mesa qui disaient que leur principale aspiration, c'était le retour à la paix, à la stabilité. Et c'est vrai que ces 14 ans de gestion du MAS ont été une période à la fois de prospérité économique, mais aussi de stabilité politique dans un pays qui était habitué à l'instabilité, aux coups d'État et à ce genre de choses. Donc ça a énormément joué en faveur du MAS, de la même manière que le bilan social du MAS a joué en sa faveur. Il y a eu une réduction de la pauvreté, de l'extrême pauvreté spectaculaire. Elle était de près de 40% lorsque Evo Morales est arrivé au pouvoir. Elle n'est plus aujourd'hui que de 15%. Il y a eu une amélioration du salaire minimum aussi assez spectaculaire. Et je crois que toutes ces avancées sociales dont ont bénéficié les populations les plus défavorisées, elles ont participer de cette dynamique politique dans un contexte où le gouvernement de facto a laissé à l'abandon les populations dans cette période de pandémie qui a été vécue de manière extrêmement difficile par ceux qui en fait tirent leur subsistance de leur travail au quotidien, qui vivent du commerce informel et qui avec le confinement se sont retrouvés dans des situations où même la faim est revenue en fait.
J'entends ce que vous dites sur le fait qu'il y a une partie en tout cas des électeurs de la droite conservatrice qui est en réalité une partie est relativement nuancée et salue le bilan social et économique du MAS, d'autant qu'en plus, en regard, on a un bilan pour le gouvernement de transition économique qui est pas bon, qui était déjà pas bon avant même l'émergence de la crise sanitaire. Il n'empêche qu'il y a aussi dans ce paysage-là une extrême droite. Je le disais, Camacho, il a fait 14%, mais quand on regarde la carte électorale, en réalité, il est arrivé en tête dans toute la partie est du pays. C'est-à-dire qu'on a là aujourd'hui un pays qui est divisé avec une gauche, en gros, les régions andines, où c'est le MAS qui est très, très, très largement majoritaire, la partie nord, la partie sud, où c'est la droite, mais toute la partie est, c'est l'extrême droite qui est arrivée en tête. Est-ce qu'on peut se retrouver avec un pays totalement divisé, avec des territoires qui, pourquoi pas, demain, se retrouveraient totalement hors de contrôle de l'État ?
Alors, c'est une polarisation qui existait déjà auparavant.
À ce point ?
C'est-à-dire que il me semble que cette élite économique de la région de Santa Cruz, qui est aussi la région où s'est développé l'agro-business, région aussi... voilà, où est installée cette élite économique. Elle n'a jamais pardonné au MAS et à Evo Morales la nationalisation d'un certain nombre de ressources naturelles, hydrocarbures, gaz naturel en tête. Et donc, cette polarisation existait déjà. Mais je crois que ce qui est important dans le cap qui a été passé là, avec l'épreuve à la fois du coup d'État et puis de cette année de répression, le MAS aurait pu... éclaté en fait en mille morceaux, d'autant qu'il y avait des voix critiques à l'intérieur qui par exemple ont pu s'émouvoir de la personnalisation cultivée autour d'Evo Morales, qui ont pu des mouvements sociaux qui ont pu se sentir tenus à l'écart par une forme un peu peut-être d'ossification. Et ce que montre ce qui vient de se produire, c'est que le MAS ne tient pas à une personnalité, à la personnalité d'Evo Morales. C'est pas du tout un parti politique classique, c'est plutôt une confluence à la fois de mouvements sociaux, d'organisations paysannes, indigènes, ouvrières, une espèce comme ça de mécanique d'articulation avec des mouvements sociaux.
Mais ça, c'est quand ça se passe bien, pardon de vous couper, mais c'est quand ça se passe bien. Ça s'est pas toujours bien passé, précisément. Cette base du MAS que vous décrivez n'a pas toujours été parfaitement derrière Evo Morales, et même progressivement, en réalité, s'en sont détachés. Il y a un point qu'on rappelle souvent concernant la Bolivie, c'est ce fameux conflit du type Nice avec cette réserve indigène au milieu de laquelle on voulait faire passer une route. Ça fait un conflit terrible, les indigènes refusant la route, et on était partagé, c'est-à-dire que d'un côté il faut pour Morales défendre les droits des indigènes, mais de l'autre il faut développer les territoires et donc faire passer cette route. Alors le problème, c'est que il a envoyé les policiers, que ça a fait il y a eu des morts et ça a été terrible. Et à partir de ce moment-là, on a senti un vrai effritement justement de cette base-là, indigène, paysanne, ouvrière, etc., etc. Ça va être un vrai enjeu pour le nouveau président Arce que de récupérer justement tous ces mouvements populaires qui se sont quand même sentis marginalisés progressivement.
Alors il y a eu cette fracture effectivement du type Nice, il y a eu la fracture aussi du référendum de 2016 perdu par Evo Morales et qui lui fermait la porte à un quatrième mandat. Il s'est quand même représenté suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Ça aussi c'est une fracture importante et c'est une démarche qui a été critiquée au sein et autour du mouvement vers le socialisme.
Et notamment critiqué par Arce ?
Alors, je crois que la façon, lui, dont il a conduit cette campagne, c'est une façon aussi avec une certaine humilité, c'est-à-dire qu'il a reconnu toutes ces fractures qui ont pu à un moment donné s'installer. Mais ce qu'on a pu sentir pendant la campagne, et c'est là où sa victoire était prévisible, c'est qu'il y a eu une remobilisation assez impressionnante de tous ces secteurs populaires, paysans, ouvriers, indigènes. On le sentait déjà dans la dynamique de campagne, dans les meetings qu'il a pu tenir, et notamment dans la dernière ligne droite de la campagne. Il y a cette réarticulation qui s'est faite et je crois que voilà, cette dynamique collective, elle continue de fonctionner et je crois que cette année de gouvernement de facto, elle a permis que s'exprime aussi l'idée que une majorité de la population bolivienne ne veut pas de retour en arrière, ne veut pas de retour en arrière de 14 ans, mais ne veut pas de retour en arrière à une situation d'exclusion des Boliviens, d'exclusion politique des Boliviens issus des peuples originaires et qui représentent 62% de la population. C'est une majorité politique, sociale, culturelle qui est en mouvement et qui qui s'inscrit qui ne soutient pas un homme ou un parti, mais qui s'inscrit dans un processus d'émancipation politique qui tient aussi, à mon avis, d'une forme de processus de décolonisation. Mmh. Il faut le dire aussi comme ça.
Et le retour possible, probable d'Evo Morales qui avait dû quitter le pays, il y a déjà des dates de retour qui sont en train de circuler, il devrait revenir courant novembre dans le pays. Ce retour d'Evo Morales ne risque pas de gêner Arce et le MAS, parce que j'entends ce que vous dites sur l'idée que le MAS c'est pas seulement Evo Morales, mais enfin faut quand même aussi avoir en tête que c'est une personnalité absolument incroyable. Enfin, je veux dire, il a une aura qui est quelque chose de très fort chez lui, et les Boliviens sont très attachés à cette personnalité-là. C'est un vrai héros pour beaucoup d'indigènes boliviens. Son retour ne risque pas d'entraver justement cette dynamique de renouveau qu'essaye d'imprimer Arce?
Je crois que c'est une personnalité effectivement qui reste extrêmement populaire auprès des Boliviens. Son retour est rendu possible par le fait que la justice bolivienne aussi a abandonné les poursuites qui avaient été engagées contre lui par le gouvernement de facto pour sédition et terrorisme. Donc ça va être un événement politique important.
Il aura un rôle politique?
Je pense qu'ils sont aussi en train de réfléchir ensemble au rôle politique qu'ils pourraient tenir, tout en laissant à la fois Luis Arce et David Choquehuanca, qui est le nouveau vice-président bolivien, assumer pleinement leurs fonctions. Il aura sans doute un rôle d'arrière-plan et puis peut-être de réarticulation justement avec tous ces mouvements sociaux, tous ces mouvements indigène. Ce qui est important, je crois, dans ce que je retiens de cette séquence politique-là, c'est Oscar Oliveira, un vieux compagnon d'Evo Morales, qui s'en est un peu éloigné, qui était à la tête de cette guerre de l'eau, qui avait contribué à porter le MAS au pouvoir avec la guerre du gaz. Il disait, on n'est plus aujourd'hui simplement face à des mouvements sociaux, on est en face de sociétés en mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu ressentir extrêmement fortement, à la fois dans cet élan, cette mobilisation pour récupérer la démocratie et dans le verdict des urnes qui s'est exprimé en Bolivie.
Merci beaucoup, Rosa Moussaoui, d'être passée dans nos studios. C'était passionnant. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur cette situation en Bolivie. On va suivre les choses, regarder justement ce que sera le poids politique de Morales dans les mois, dans les années à venir. Je rappelle que vous êtes grand reporter pour l'Humanité et qu'on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site de l'Humanité. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Es 24 de septiembre, ella se llama libertad, alma, pasión y una costumbre de un pueblo en buena vecindad. Es 24 de septiembre, amante soy de libertad, que su belleza nos deslumbre por toda la eternidad.